Nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.
Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, logo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Baixo xugo aldrasadas, mulleres, trafegadas, violadas, dentro de todas as casas, mulleres, e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Recoñecémonos todas mulleres, no sentir do noso xa, oprimidas as mulleres, querémonos rebelar. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé.
voilà, ça marche. Quelqu'un avait touché la table de mixage de Radio Galère, heureusement. J'ai réussi à comprendre ce qui se passait. Et donc, bonjour, c'est La Révolution sera féministe sur Radio Galère. Et bienvenue à vous. Merci d'être là. Donc, aujourd'hui, j'ai bien failli ne pas venir parce que j'étais un petit peu perturbée par ce qui s'est passé le 8 mars pour nous, féministes, universalistes, laïques et abolitionnistes. Mais j'ai réussi à me reprendre et me voilà. Donc, comme vous l'entendez, je suis un tout petit peu émue, mais je sais que je dois être là et que j'ai beaucoup de choses à dire et que je vais faire appel à la raison. C'est très important, peut-être à l'humour, si j'y arrive, ça aimerait bien. Donc en fait, j'ai été perturbée le 8 mars parce qu'une amie à nous, abolitionniste de la prostitution, s'est fait agresser pendant la manifestation par des personnes qui préconisent le travail du sexe. Donc je vais utiliser pour l'instant justement une publication du mouvement d'Uni qui va un peu vous expliquer ce sujet-là, et puis je vais vous dire je vais du coup en profiter pour revenir sur ce que c'est que l'abolitionnisme, sur la réalité de la prostitution et de pourquoi tant de tensions dans le mouvement féministe, et que se passe-t-il. Donc des personnes prostituées agressée et réduite au silence dans des manifestations du 8 mars. Violence physique, violence verbale, arrachage de pancartes. Au moins 3 survivantes de la prostitution et plusieurs bénévoles d'associations abolitionnistes, dont le mouvement d'Uni, ont été agressées le 8 mars 2020 lors des manifestations de lutte pour les droits des femmes. Le mouvement d'Uni adresse un message fort de soutien aux victimes et dénonce fermement ces agressions qui visent à faire taire les survivantes de la prostitution. Des femmes qui ont le courage de témoigner et de s'élever contre un système prostituteur qui fait dans le monde des millions de victimes, femmes et enfants, en premier lieu, excusez-moi. La présidente du mouvement d'Uni, Claire Kidé, s'insurge. Aujourd'hui, des personnes qui ont le courage d'exprimer les violences qu'elles ont vécues dans la prostitution sont insultées et même agressées physiquement parce qu'elles osent une vérité bien loin du diktat du lobby pro-travail du sexe qui sert les intérêts et les profits des proxénètes et des prostituteurs. Tout semble permis pour les réduire violemment au silence. C'est tellement plus confortable pour la société de ne pas entendre cette parole. C'est ce que confirme Stéphanie Karadec, qui le dit, qui est directrice de l'association qui accompagne chaque année plus de 1300 victimes de prostitution, donc le mouvement d'Uni. Les associations qui accueillent et accompagnent de manière inconditionnelle les personnes prostituées sont malmenées, diffamées, ce qui complique notre travail de terrain en soutien à ces personnes. C'est inadmissible et il faut que ces violences cessent. Dans le contexte de la libération de la parole des femmes suite au mouvement MeToo, il est insupportable que celles des plus opprimées d'entre elles soient non seulement peu entendues, mais réduites à néant et censurés. Voilà, donc ils ont recueilli des témoignages de personnes donc prostituées qui dénoncent en fait le système prostitutionnel, qui ont survécu à ce système et qui en dénoncent la violence et qui donc ont été agressées par des personnes qui défendent la prostitution en disant que c'est un travail. Alors, je vais quand même vous les lire, ces témoignages, je pense que c'est important. À Paris, une survivante de la prostitution qui manifestait auprès du collectif Abolition Porno Prostitution a été frappée au visage. Elle raconte « À 17h, j'étais avec une amie du collectif Abolition Porno Prostitution en train de déballer une banderole pour accueillir l'arrivée de la marche Place de la République. Tout s'est passé très vite. J'ai vu arriver en courant derrière mon amie une quinzaine de personnes vêtues de noir. Elles ont crié « C'est là, c'est elle !» Mon amie s'est pris un coup de pied dans le dos et s'est effondrée par terre. On nous a arraché notre banderole. J'ai voulu me relever pour la retenir, mais une femme m'a frappée au visage. S'en est suivie une mêlée. Je prenais des coups sans savoir si j'avais une, deux ou trois personnes sur moi. J'ai repris mes esprits, maintenu au sol, dans une flaque, par l'un des CRS qui a stoppé l'agression. D'autres amis du collectif qui se trouvaient un peu plus loin avaient suivi la scène choqués. Quelqu'un est venu leur demander « C'est ici l'assaut contre les abolos ?» Donc je vais revenir pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'abolition, revenir et faire un peu des mises au point sur tout ça. Donc je continue les témoignages. Les victimes de cette agression ont ensuite porté plainte. Deux d'entre elles ont dû passer la nuit aux urgences. À Toulouse, Figi, une survivante de la prostitution qui tenait une pancarte abolitionniste a été attaquée par des femmes en roller qui ont tenté de la lui arracher. Heureusement, les manifestantes autour d'elle sont immédiatement intervenues pour la protéger. Elle est très choquée. Voilà, on en arrive à Marseille. Donc moi, effectivement, c'est ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu. Une bénévole du mouvement du Nid a été violemment prise à partie. Trois femmes plutôt jeunes ont sauté sur ma pancarte pour me la tirer et me l'arracher violemment. D'autres femmes ont tenté de les en dissuader, mais elles étaient trop virulentes. À Bruxelles, enfin, des manifestantes ont scandé « mort aux fachos, mort aux abolos » et ex-survivante de la prostitution qui était dans la cortège témoigne « Je me suis prise la violence d'un prostituteur qui m'a entraînée dans des actes de prostitution, le stigmate de la prostitution. Et maintenant, je suis incitée à mourir en manif pour les droits des femmes parce que je souhaite dénoncer la violence subie. » Voilà, donc je sais, c'est fou. Vous allez dire « Mais qu'est-ce qui se passe dans le... » même dans le mouvement féministe, puisque vous avez entendu que bon, ce sont des femmes ont agressé ces survivantes de la prostitution ou ces personnes qui luttent contre la prostitution. Donc effectivement, il y a un gros problème à l'intérieur du mouvement féministe aussi. Certaines féministes défendent la prostitution. Mais en fait, qui il y a derrière tout ça ? Eh bien... il y a un faux syndicat, donc je vais en parler, je pense que c'est important. Donc ce faux syndicat s'intitule le STRAS. Donc en fait, c'est un syndicat, je vais expliquer ce que c'est, parce que je ne pense pas que vous connaissiez. Ce n'est pas du tout pour en faire la publicité, au contraire, c'est pour le dénoncer en fait, puisque ce syndicat, il se trouve que faisait partie en fait d'un collectif de féminisme qui n'en a que le nom pour moi, donc féminisme intersectionnel marseillais, et il s'était associé à ce soi-disant syndicat. Donc il y avait un deuxième cortège le 8 mars, un cortège de soi-disant féministes intersectionnels, donc non universalistes, qui avait eu la bonne idée de s'associer avec ce soi-disant syndicat pro-travail du sexe. Voilà, donc c'est pour ça que je suis un peu émue de vous divulguer cette information que certainement beaucoup de personnes ne savent pas et ne comprennent pas forcément comment c'est possible. Donc déjà, on avait déjà eu des soucis en fait avec ce soi-disant syndicat. Donc déjà, je vous explique, c'est un syndicat qui s'est autoproclamé, qui en fait n'est pas un syndicat, il n'en a que le nom, et qui prétend représenter des personnes en situation de prostitution, mais il se trouve qu'il représente certainement peut-être 2% de ces personnes. Ces personnes qui sont en fait manipulées par les lobbies de la prostitution, qui sont très puissants et armés financièrement. Voilà. Donc ces 2% de personnes qui prétendent choisir se prostituer sont en réalité des personnes souvent blanches qui effectivement peut-être ont pu se prostituer ou se prostituent de temps en temps quand ça leur chante, avec peut-être en choisissant leurs clients, peut-être pas tous les jours, etc. Et donc en fait ces deux personnes prétendent représenter la réalité de la prostitution. Nous savons, nous qui travaillons avec les personnes prostituées, que la réalité de la prostitution, ce ne sont pas ces deux personnes-là, 2%-là, mais ce sont 95% de personnes étrangères, souvent sans papier, souvent en situation quelquefois de migration, mais elles n'arrivent pas jusqu'à nous parce qu'effectivement, elles arrivent elles sont prises par les réseaux de traite. Voilà, ou sinon aussi, elles arrivent aussi dans nos pays, hein, elles sont dans la rue, dans nos pays, en situation de traite. Et d'ailleurs, je vais faire un troisième volet avec justement l'Amicale du Nid Marseillaise pour normalement parler de cette situation de traite. Donc 95% des personnes qui se prostituent sont des étrangères, sont en situation de traite, sont des personnes vulnérables, sont des personnes pauvres. Voilà. Donc je continue sur le Stras. Donc il nous a habitués depuis sa création à des méthodes agressives, intimidantes et violentes. Ce sont en réalité des méthodes patriarcales qui sont utilisées contre les féministes qui osent prendre la parole dans l'espace public et contre les personnes en situation de prostitution qui osent militer pour la fin de ce système de violence. Alors, c'était à la manif de contre les violences faites aux femmes. Nous avions eu déjà des problèmes. On nous avait, ce syndicat soi-disant, donc nous avait accusé d'avoir dit « pas de pute dans nos luttes ». Donc en fait, ils inversent complètement, je trouve ça assez ignoble comme procédé. Ils font croire que, enfin moi je trouve ça insensé, hein, j'ai du mal à rentrer dans la tête des personnes qui arrivent à comprendre cette logique-là. Ils font croire aux gens, en fait, que nous qui luttons contre la prostitution, nous n'aimerions pas les putes, nous rejeterions les putes. Voilà, donc un peu l'inversion. Je ne sais pas, j'arrive pas à suivre je ne comprends pas que des personnes puissent adhérer à ce raisonnement. Donc voilà, donc notre réponse c'est que non, ça a aucun sens compte tenu de nos prises de position aux côtés et avec les personnes en situation de prostitution depuis 10 ans, puisque nous les connaissons. Ce sont des personnes survivantes qui nous ont demandé justement de lutter contre la prostitution. Et nous avons organisé une multitude de rencontres, des débats, on les a fait pour entendre et faire entendre la parole de ces personnes vraiment concernées par la prostitution, que l'on n'entend pas du tout dans les médias, ces personnes-là. Effectivement, celles qu'on fait venir, ce sont les autres, les 2% qui disent qu'elles ont choisi de se prostituer. Ça, ces personnes-là, on les fait venir volontiers dans les médias. C'est fait exprès tout ça évidemment, mais j'y reviendrai en fait, puisque dans les médias, dans tous les milieux finalement, c'est devenu le mot d'ordre quoi, c'est l'inversion donc affolante du féminisme finalement. Maintenant, être féministe, c'est avoir le droit de se prostituer. Vous voyez un petit peu de quel droit on parle, quels sont, je sais pas. Bon, je laisse 30 secondes de silence peut-être pour vous réfléchissiez à tout ce que ça implique en fait. Voilà. Donc, je continue. Nous avions organisé justement des rencontres, des débats à ce moment-là, pour que tous et toutes sachent comment, dans la très grande majorité des cas, la prostitution implique des viols, des coups, des féminicides. Et donc, pendant les manifestations, en tout cas celle du 23 novembre, nous avions dit « prostitution, ni un choix, ni un travail, une violence ». Ou alors nous avions dit « mon corps n'est pas à vendre, abolissons la prostitution ». Bon, voilà, je pense que toute personne qui a un petit peu de bon sens et qui comprend ce que c'est que l'égalité des sexes et la lutte pour vivre dans une société vraiment égalitaire peut comprendre ce genre de slogan. Et peut comprendre que nous luttions contre la prostitution qui nous semble effectivement un des premiers piliers du système patriarcal. Voilà. Donc il faudrait donc rappeler aussi ce que c'est que l'abolition. Eh bien, il y a une énorme confusion dans la tête des gens qui est donc justement fait exprès, mise en place par ce syndicat, qui fait croire que le système abolitionnel qui, je vous le rappelle si vous ne savez pas, est passé grâce à nos luttes dans la loi française. Donc la France, si vous ne le savez pas, est pourtant abolitionniste. Donc nous ne faisons que demander, en étant abolitionniste, abolitionniste, nous ne faisons que demander que cette loi qui est passée en France soit respectée par toutes et tous et soit enfin utile et enfin appliquée, ce qui n'est effectivement pas assez le cas puisque nous avons une contre-offensive, comme vous le comprenez, qui fait que bon, ben, la société pour l'instant ne souhaite pas faire appliquer cette loi, surtout si elle est influencée par des personnes qui prétendent encore que la prostitution c'est un travail. Donc voilà. Donc en fait, l'abolition, c'est pas du tout la prohibition. Évidemment, non, en fait. Là, cette loi abolitionniste qui est en place ne dit absolument pas que les prostituées ne peuvent plus se prostituer. Ben non, vous aurez remarqué, les prostituées continuent à se prostituer. Donc une personne en situation de prostitution n'est pas poursuivie pour prostitution. Bien sûr que non, ce n'est pas ce que nous voulons, bien sûr. Nous voulons protéger ces personnes-là. Voilà, donc en fait, ce que dit cette loi, c'est tout simplement que c'est le système prostituteur qui doit être aboli. Et donc, voilà, les clients, par exemple, font partie du système prostituteur, donc voilà. Mais pas seulement. Donc en fait, nous militons donc pour qu'aucune personne en situation de prostitution ne soit poursuivie, pour que toutes soient entendues lorsqu'elles souhaitent témoigner, pour que leurs droits soient reconnus. Nous sommes donc contre le système patriarcal et il a pour outil de domination la prostitution. Pas de symétrie dans la prostitution. Les femmes et les hommes ne jouent pas le même rôle. Dans la très grande majorité des cas, les hommes achètent, les femmes sont achetées. Cela reproduit évidemment le rapport de force que nous espérons abolir. Nous sommes donc du côté des personnes en situation de prostitution et c'est pour cela que nous avons milité pour la suppression du délit de racolage. Donc actuellement, effectivement, cette loi a supprimé, bien sûr, le délit de racolage. Donc quand vous entendez des personnes qui vous disent la prostitution est un travail et en ce moment cette loi empêche les prostituées de se prostituer, eh bien cela est un mensonge. Voilà. Donc du coup, je vais... les choses sont déjà... Je me sens déjà bien mieux d'avoir redit tout ça. Et donc je vais continuer pour vous expliquer justement ce que c'est exactement que la position abolitionniste. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il y a effectivement une campagne qui est en faveur du modèle opposé à l'abolition, c'est-à-dire le modèle réglementariste. Donc je vais vous parler de tout ça. Je vais vous rappeler rapidement ce que c'est que la loi d'avril 2016. Donc cette loi abolitionniste, je vous ai dit, qui est passée grâce à nos luttes et qui est fortement, enfin, que nous voulons renforcer et faire respecter. Donc voilà, qu'est-ce que c'est donc que la position abolitionniste ? Eh bien, nous sommes donc néo-abolitionnistes, nous luttons contre le système prostitutionnel. Pour nous, c'est une machine de guerre contre l'intégrité des femmes. Elle encourage toutes les autres violences faites aux femmes. Nous avons donc lutté et nous luttons toujours avec les survivantes de la prostitution qui luttent pour être reconnues en tant que victimes et pour dénoncer la traite humaine. Donc cette nouvelle loi, effectivement la grande révolution de cette loi, c'est de reconnaître que les femmes qui se prostituent sont victimes d'un système et ne sont pas coupables de mal se comporter. Bien sûr que non. Alors, nous disons donc que la prostitution n'est pas un métier. Bon, voilà, je vous laisse réfléchir à ça, parce que ceux qui disent que c'est un métier, j'ai envie de leur répondre, les femmes, hein, aussi des femmes disent, mais enfin, c'est un métier, c'est un travail. J'ai envie de leur dire, avez-vous essayé ce métier ? Ou peut-être pourriez-vous le conseiller à vos filles, à vos sœurs ? Bon, pareil pour les hommes qui me diraient ça, hein, bien sûr. Donc voilà, non, c'est pas un métier, c'est une violence patriarcale, c'est un système d'exploitation des femmes qui est organisé pour un profit masculin. C'est un système qui se nourrit des inégalités hommes-femmes, qui maintient les corps des femmes à la disposition des hommes en leur garantissant, c'est très important ça, ce que la condamnation du viol leur a retiré, c'est-à-dire la possibilité de disposer du corps des femmes dans un rapport sexuel à sens unique, niant le désir de l'autre. Alors la connexion, là je veux insister, entre le viol et la prostitution, elle est très fortement évidente. Nous nous disons effectivement que la prostitution, ce n'est rien d'autre que du viol tarifé. Et d'ailleurs, c'est pratiquement comme ça qu'elle est née dans les premières tribus humaines. Effectivement, le viol, c'est un petit peu embêtant, même pour la société patriarcale, qui considère que, la société patriarcale considère en réalité qu'une femme ne s'appartient pas, déjà, et appartient à son mari ou à son père, voilà. Donc, le viol, c'est un peu embêtant, même si, je vous rappelle qu'en France, il y a impunité totale, puisque 1% seulement des violeurs sont condamnés. Donc voilà, la justice est encore terriblement patriarcale. Mais c'est un petit peu embêtant, disons, de violer une femme quand même pour la société patriarcale, parce que du coup, la femme n'est plus consommable, la femme n'est plus viable. Dans de nombreuses sociétés, une femme violée, même dans les sociétés patriarcales, ils reconnaissent que cette femme, on ne pourra plus la marier. Bon, il y a encore des sociétés qui proposent du coup de marier les jeunes filles violées. Du coup, c'est bon, vous voyez, le viol sera excusé. Voilà, donc c'est vrai que cette condamnation du viol pose un petit problème. Du coup, à quoi on a pensé au tout début des sociétés patriarcales ? On s'est dit, oui, c'est vrai, c'est embêtant, puisque la femme n'est plus consommable, le mari ne sera pas content, le père ne sera pas content. Du coup, que faire ? On a inventé la prostitution. C'est tout simple. Du coup, acceptation totale, acceptation sociale. Il n'y a qu'à prendre des femmes, pour disponibles, on va dire que ça, c'est les personnes en situation de prostitution qui se prennent toutes les violences, tranquillement. D'ailleurs, ne dit-on pas c'est bien la prostitution parce que sinon les hommes violeraient encore plus les femmes. Ne dit-on pas ça ? Donc ça signifie quoi ? Ça signifie d'ailleurs la réalité de la prostitution. Effectivement, ces femmes-là subissent des violences inouïes. Effectivement. Voilà. Donc, obtenues jadis impunément par la contrainte physique ou psychologique, impunies dans le cadre du mariage et dans le monde professionnel, jusqu'à la reconnaissance du viol conjugal et du harcèlement sexuel, il y a à peine 20 ans, le droit des hommes à disposer du corps des femmes persiste dans le système prostituteur au nom d'un argument devenu caduque partout ailleurs, pas tellement encore malheureusement, les besoins sexuels irrépressibles masculins. Ainsi, alors qu'un employeur conditionnant une augmentation à l'obtention de faveurs sexuelles de la part de sa salariée serait condamné, les hommes prostituteurs obtiennent impunément les mêmes faveurs contre une rémunération. La prostitution, comme le viol, dont elle n'est qu'une variante, est en soi violente et inégalitaire. Les femmes n'entrent pas sur ce « marché » entre guillemets comme dans un autre. Dans la prostitution, elles deviennent la marchandise et on ne voit pas quel profit elles pourraient en tirer puisque c'est précisément des traumatismes et le manque de ressources propres qui les y contraignent. La prostitution est à toute époque, en tout contexte, une violence patriarcale qui ne concerne pas seulement les victimes directes de la prostitution et de la traite, mais également toutes les femmes en affirmant que l'on peut acheter leur corps, contrôler leur sexualité. Donc pensez bien aussi à l'inversion, les femmes ont le droit de se prostituer, si vous entendez ça. En fait, cela cache tout simplement, c'est inverser le fait que les hommes ont le droit de s'acheter des femmes. Donc toujours processus d'inversion. La prostitution, ce n'est pas du sexe, car le sexe concerne des personnes égales et consentantes. La prostitution est donc une forme de viol, une violence faite aux femmes à part entière, au même titre que les violences conjugales ou les mutilations génitales, et ne peut donc en aucun cas être considérée comme un travail. Voilà. Voilà ce que c'est que notre position abolitionniste. Donc maintenant, si vous vous demandez quels sont les différents systèmes qui réglementent la prostitution, donc je vais vous les rappeler, si vous ne savez pas. Alors, il y a, quand on n'est pas abolitionniste, dans les pays qui ne sont pas devenus abolitionnistes, ce qu'on a souvent, c'est la réglementation de la prostitution. Et c'est ce que préconisent en fait les personnes qui disent que la prostitution est un travail. Voilà, donc ils luttent contre... Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, en fait, dans ces pays-là, il y a par exemple l'Allemagne, les Pays-Bas, où donc effectivement on réglemente et donc où la prostitution est appelée un travail. Dans ces cas-là, la prostitution devient un marché légitime, devient finalement, comme toute entreprise, un capitaliste, hein, réfléchissez-y, en fait, c'est de l'ultra-capitalisme, ça, tout ça, c'est, voilà. Et c'est très, un marché très juteux, hein, d'ailleurs, puisque maintenant, on a des start-up hein, qui se construisent sur la prostitution. Hein. Voilà, d'ailleurs, je pense que j'aurais même pas le temps d'en parler. Je vois l'heure qui tourne, mais j'ai tellement de choses à vous dire, à vous raconter, en fait. Mais de ce qui se passe, voilà. Donc, alors, sur la réglementation, donc, dans ces pays-là, quand on a la réglementation, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Ben, finalement, la prostitution, elle est encouragée, c'est un travail, elle est entretenue, elle est en croissance. Par contre, souvent, la contrainte économique des femmes ne suffit plus, parce que, voilà, dans ces pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, des femmes pauvres qui se prostituent parce qu'elles veulent travailler, il n'y en a pas assez. Et du coup, le trafic d'êtres humains explose. Il faut bien alimenter les bordels de chair humaine par de la chair toujours plus jeune, toujours plus fraîche. Le client devient blasé, devient exigeant. Donc finalement, on légalise la vente de viols tarifés. On fait du proxénétisme une profession respectable contre laquelle il devient évidemment impossible de lutter. Puisque si c'est un travail, la prostitution, les proxénètes, c'est quoi ? C'est des entrepreneurs comme les autres. Voilà, c'est ce qui se passe. Il faut savoir que dans ces pays avec réglementation, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, les violences, les féminicides sur ces prostituées sont hallucinants, quoi. Et aussi l'augmentation, effectivement, donc j'ai les chiffres là, il faut que je les ai apportés avec moi, mais il faut que je cherche un peu dans mes feuilles, mais je peux vous les donner. Ça a explosé, en fait. Voilà. Alors, dans les pays néo-abolitionnistes, comme nous le sommes, hein, je le rappelle, il y a la France, donc depuis 2016, il y a la Suède, il y a la Norvège, il y a l'Islande. Il n'y en a pas tant que ça. Dans ces pays, il est illégal d'acheter du sexe, voilà. Par contre, je rappelle, évidemment, il n'est pas illégal de se prostituer. On ne va pas s'attaquer aux personnes qui se prostituent, évidemment que non. Par contre, on lutte contre les proxénètes. Donc, il est illégal d'acheter du sexe et d'impliquer une tierce partie. La prostituée est protégée par la loi, donc elle n'y a pas de délit de racolage. Mais on considère qu'elle est une victime d'un système violent. Donc, sont pénalisés les proxénètes et les acheteurs d'actes sexuels. La charge de la pénalisation, c'est très important, est donc inversée. La délinquance change donc de côté. Le but est donc symbolique et fort. Ce n'est pas l'offre qui provoque la prostitution. Ce sont au contraire les clients qui entretiennent la violence et la domination. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Eh bien, actuellement, en France, moi, je vous parle de la France, on assiste malheureusement à une campagne terrible en faveur donc du modèle réglementariste. C'est-à-dire qu'on a un assaut donc des opposants à cette loi révolutionnaire, donc des opposants à l'abolition. Donc, comme la validation sociale des actes de prostitution, c'est la condition de possibilité de la criminalité, eh bien, c'est pas étonnant. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a un tas de livres qui sortent. Vous avez dû entendre parler de Emma Becker, etc. Des tas d'émissions, en fait, qui sortent dans les médias, dans les radios, etc. Où finalement, on ne nous parle que du mythe de la prostituée heureuse. Donc en fait, comme le mythe de la prostitution, ils disent quand même pas que c'est un mal nécessaire, quoique ça fait pas bien assez vendre, en fait. Du coup, ils en arrivent à un autre mythe, celui de dire que les prostituées sont heureuses, s'épanouissent et que c'est un super beau métier, quoi. Donc en fait, c'est une véritable campagne en faveur du modèle réglementariste qui arrive, semble-t-il, à point nommé. Donc il y a malheureusement plusieurs associations qui sont favorables, et ça c'est incroyable, à la légalisation de la prostitution. C'est pour ça que effectivement je m'inquiète et j'essaye de ne pas me décourager. Notamment Médecins du Monde, Amnesty International, Aide, etc. Qui avaient, quand la loi est passée, ils avaient ensuite, eux, saisi le Conseil constitutionnel, donc avec le Stras évidemment, dont je vous ai parlé, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Quand la loi est passée, ils ont voulu... la bloquer pour mettre, ils ont eu l'idée de la bloquer, donc de faire une saisine pour mettre en cause le caractère constitutionnel de la loi sur la pénalisation des clients de la prostitution. En fait, ils mettaient en avant leur argument, c'était voilà, on a le droit de se vendre, enfin l'entrepreneuriat, etc. Et finalement, le Conseil constitutionnel avait heureusement tranché en faveur de nous abolitionnistes et confirmé le caractère constitutionnel de la loi. Donc ça, c'est récent, hein, c'était en novembre 2018, où ça a été déjà pas évident pour nous, mais on a toujours encore un retour de ces personnes qui luttent contre cette loi, contre l'abolition de la prostitution. Donc, je vais peut-être, oui, vous lire, et puis après je ferai une pause musicale, voilà, pour reprendre un petit peu mon... Donc pour vous parler toujours de cette campagne que je vous disais dans les médias, les livres, les radios, etc. Qui est sortie, je vais vous lire aussi donc une lettre ouverte de Zéro Macho à Sonia Kronlund, productrice de l'émission Les Pieds sur Terre. Donc voilà, cette lettre est très intéressante. Donc Zéro Macho, c'est la seule association d'hommes pro-féministes, je pense, qui existe en France. Elle a été créée par quelqu'un que je connais qui s'appelle Olivier Manson. Et je trouve que cette lettre est très bien écrite. Donc je vais vous lire, comme ça vous comprendrez un petit peu de quoi il s'agit par rapport à cette campagne. Et puis je reviendrai ensuite sur... voilà, je vous la lis. Le 3 février 2020 a été diffusée sur France Culture une émission des Pieds sur Terre au sujet du Vénusia, un bordel de Genève. Une émission de plus dans cette série documentaire où la prostitution est systématiquement présentée comme un métier banal et brandie en exemple d'une légalisation qui, chez nos voisins suisses ou allemands, a surtout profité aux proxénètes, promus au rang d'hommes d'affaires et aux clients invités à se défouler en profitant de forfaits tout compris et de happy hour. Nous nous étonnons que soit diffusée sans aucune mise en garde sur une chaîne publique de telles apologies de la prostitution. Ignorez-vous que les hommes payant en Suisse ou en Allemagne pour accéder au sexe de femmes mises à leur disposition risquent une amende en France ? N'avez-vous donc aucune conscience de la double domination à la fois capitaliste et machiste qui s'exerce dans les bordels, celle de l'argent et celle de ces hommes, les prostituteurs, auxquels on reconnaît le droit d'imposer un acte sexuel à une femme recrutée parmi les plus vulnérables, le plus souvent arrachée à son pays, à sa famille, par la misère et la précarité. Subir des pénétrations à répétition, endurer les insultes, les humiliations, les agressions. Toutes les enquêtes montrent en effet que les clients sont les premiers auteurs des violences exercées contre les personnes prostituées. Est-ce un travail ? Un travail comme un autre ? Si c'est un métier, allez-vous le proposer aux jeunes filles et garçons pour un stage, aux personnes au chômage? À l'heure du mouvement MeToo, de la dénonciation par les femmes du harcèlement et des violences masculines, pensez-vous que le consentement arraché au moyen d'un billet est l'expression du désir et du plaisir de ces femmes? En France, des années de débats et de réflexions ont permis de qualifier enfin la prostitution comme une violence contre les femmes. Depuis 2016, les personnes prostituées sont considérées enfin comme des victimes à accompagner pour les aider à s'en sortir. Déjà, 4000 prostituteurs ont payé une amende ou assisté à un stage de sensibilisation au même titre que les auteurs de violences conjugales. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Que des personnes enfermées dans cette voie sans issue qu'est la prostitution n'aient d'autre ressource que de la défendre ne devrait pas vous empêcher en tant que journaliste de prendre du recul. Comment pouvez-vous ignorer la parole des survivantes qui dénoncent de plus en plus, et dans le monde entier, les violences, les viols, le dégoût qu'elles ont subi dans ce ghetto dont elles ont eu tant de mal à s'extraire ? Survivantes qu'on n'entend jamais dans votre émission, et dont la parole est pourtant inséparable de la dénonciation de la domination sexuelle masculine. Les émissions des Pieds sur Terre ou le Tapis Rouge, déroulées à Emma Becker sur France Culture, donnent de la prostitution une image branchée et moderne, très loin de la réalité vécue. La prostitution n'est pas un métier, c'est une violence. Voilà, donc ça c'était la lettre écrite par les membres de Zéro Macho, qui est un réseau donc, d'hommes qui se sont engagés contre le système prostituteur et qui sont pour l'égalité homme-femme. Voilà, donc je vais revenir sur cela. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, oui, le livre d'Emma Becker, bien c'est un livre où, qui encense en fait la prostitution, soi-disant une fille qui aurait vécu dans un bordel la prostitution. Et voilà, ce livre a obtenu le prix des étudiants. Voilà. Donc voilà, je vais faire une petite pause musical. Bienvenue pour pouvoir continuer. Donc, je vais... Excusez-moi. Du coup, il faut que je retrouve ce que je voulais vous envoyer comme musique. Voilà. Petite pause musicale. Désolée pour le temps.
D'ingénieur au féminin.
Do it the hard way and it's easy sailing. Do it the hard way and it's hard to lose. Only the soft way has a chance of failing. You have to choose. I tried the hard way when I tried to get you. You took the soft way when you said we'll see. Darling, now I'll let you do it the hard way now that you want me. Tried the hard way when I tried to get you. You took the soft way when you said we'll see. Darling, now I'll let you do it the hard way now that you want me.
Donc je reprends, la révolution sera féministe. Sur Radio Galère. Donc, Voilà, je reprends donc sur cette campagne donc en faveur du modèle réglementariste, donc du livre d'Emma Baker à l'art du bordel, le doc stupéfiant, toutes ses œuvres et émissions. Donc il y a donc aussi cette émission dont je viens de vous parler là, dont parlait Zéro Macho, donc les pieds sur terre sur Vénusia, le bordel de Genève. Elles ont toutes des points communs. Elle porte un regard critique sur notre modèle, le modèle abolitionniste, qui est présenté à chaque fois comme défavorable aux personnes prostituées. Ensuite, elle décrive la réalité de la prostitution de façon tendancieuse, comme si elle pouvait être considérée comme un travail semblable à un autre, sans jamais s'attarder sur la dangerosité de ce système de violence et d'exploitation. Et donc, le but qu'elles ont de tout ça, c'est de présenter le modèle réglementariste comme enviable, est plus favorable aux personnes prostituées. Donc on retrouve à chaque fois la mise en avant des nouvelles égéries de la légalisation des bordels, donc que ce soit Emma Baker ou Zaya Dehar, des femmes jeunes, séduisantes, intellectuellement tout juste capables de répéter en boucle un discours qu'elles ne paraissent pas maîtriser elles-mêmes. Ces coups médiatiques ne sont pas sans effet sur l'opinion publique. On assiste à une véritable pornographisation de l'espace public, processus au cours duquel les médias s'approprient les images et les codes de la pornographie et de la prostitution. Les femmes sont en quelque sorte incitées à adopter ces codes qui sont présentés comme normaux, voire tendances. Cette idéologie qui est hautement patriarcale se répand dans le champ social, elle tend à se banaliser, voire à légitimer la prostitution au niveau idéologique. La sexualité inspirée de la pornographie est présentée comme la norme et la prostitution comme une activité glamour qui peut même permettre d'accéder rapidement à une reconnaissance sociale, à la possession de biens matériels ou encore à une autonomie vis-à-vis de la famille pour les jeunes. C'est un joli coup de communication qui pourrait rapporter gros. C'est vrai que si on légalisait en France, si on réglementait, donc qu'on ne luttait plus pour l'abolition, eh bien ça boosterait effectivement des gros profits, les profits tirés de la traite humaine, comme cela a été le cas en Allemagne. Donc depuis 2002, dans ce modèle réglementariste préconisé donc par toutes ces personnes, eh bien la prostitution, c'est donc une activité comme une autre, une profession. Et 17 ans après la légalisation, finalement, l'Allemagne a vu la traite humaine augmenter dramatiquement sur son sol, la prostitution clandestine croître comme jamais dans un contexte d'augmentation de la violence. Le chiffre d'affaires annuel de la prostitution en Allemagne, voilà, je vous disais que j'allais vous le donner, eh bien, il s'élèverait à 14,6 milliards d'euros. En fait, c'est un chiffre de 2013, donc probablement inférieur au chiffre actuel, puisque nous sommes en 2020. Il y a effectivement de quoi faire rêver les proxénètes français, pour le moment relativement gênés aux entournures, par le système abolitionniste en vigueur. Donc derrière cet écran de fumée de la glamourisation de la prostitution, ne vous y trompez pas, se cachent d'énormes intérêts financiers et un danger mortel pour la frange la plus vulnérable de la population féminine. Donc ceci, je me suis inspirée pour ce que je viens de vous dire d'un article de Christine Dalloway qui publie sur un site qui s'intitule, comme le nom de mon émission, mais c'est pas le mien, mais qui est très très bien évidemment, un site qui s'intitule Révolution Féministe. Alors, pour continuer aussi sur ce qui se passe au niveau de la prostitution dans toute cette campagne, nous avons l'histoire des aidants sexuels pour les personnes handicapées. Donc en fait, il y a eu une proposition d'aidants sexuels pour les personnes handicapées. Alors, je vous lis le communiqué de presse du Haut Commissaire à l'égalité qui date du 11 février 2020, qui vous permettra de comprendre de quoi il s'agit. Le Haut Commissaire à l'égalité s'oppose fermement à la proposition d'aidantes sexuelles pour les personnes handicapées. Légaliser l'achat de services sexuels serait contraire à notre législation contre l'achat de prostitution. La création d'aidants et aidantes sexuelles, c'est-à-dire d'hommes, mais surtout de femmes formées et employées pour fournir des, entre guillemets, « prestation sexuelle est une forme de légalisation de la prostitution, alors que la France s'est engagée à combattre l'exploitation sexuelle des êtres humains. Le HCE rappelle que l'une de ses anciennes membres, la regrettée Maudie Pio, qui fut présidente de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, donc en fait c'est une, je vous le dis si vous ne le savez pas, que c'est une association de femmes handicapées, déclarait que la notion d'aidant sexuel est une mauvaise réponse à un vrai problème, celui des personnes lourdement handicapées qui veulent vivre leur sexualité d'homme et de femme dans l'authenticité et la dignité et pouvoir créer une relation amoureuse. Poser comme principe qu'il y aurait une sexualité spécifique des personnes handicapées qui réclamerait une réponse spécifique est une erreur et conduit une fois de plus à la ghettoisation du handicap. Le HCE exhorte le gouvernement à ne pas dissocier la légitime aspiration de toute personne, quel que soit son état de santé ou de handicap, à une vie affective et sexuelle dans le respect de l'autre. À une vie affective et sexuelle dans le respect de l'autre. Mais il faut combattre contre l'exploitation, mais nous devons combattre contre l'exploitation des êtres humains et la marchandisation des corps. Voilà. Donc, affaire à suivre. Espérons donc que le gouvernement suive cet avis du HCE. Voilà, donc il reste pas beaucoup de temps. Donc, je ne vais pas pouvoir peut-être vous parler. Je pensais, mais je n'aurai pas le temps de vous parler de cette association Zéro Macho qui, en fait, lutte. Ce sont des hommes qui luttent contre la prostitution. Et je trouve ça très bien, en fait, que des hommes se déclarent pro-féministes. C'est très bien que les hommes. Et je pense que les hommes ont beaucoup à faire dans notre combat. C'est à eux, avant tout, aussi de dénoncer le patriarcat, c'est à eux de vouloir changer cette société, c'est à eux de dire qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ne sont pas complices avec ce patriarcat. Ces hommes-là sont très peu nombreux. Je voulais donc vous parler du fondateur de cette association, mais je ne vais pas avoir le temps, donc je le ferai dans une prochaine émission. Il s'appelle Olivier Manceron. Il est médecin, il est écrivain, il est auteur d'un livre qui s'appelle, je vous le dis quand même, Le sexe zéro et paroles d'hommes, et ce sont des réflexions masculines pour une société féministe égalitaire. Donc il s'adresse à ses amis les hommes en leur disant qu'est-ce que vous faites, bougez-vous et ne soyez pas complices et faites changer ce patriarcat, dénoncez-le. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous passer des audios en fait, qu'il m'a pu m'envoyer, puisque bon, je le connais personnellement, je lui ai demandé. Il m'a envoyé des audios où on peut l'entendre avec ses messages principaux. Mais là, je ne vais pas avoir le temps. Donc, avec le temps qui me reste, je vais vous parler, je vous l'ai dit, que le proxénétisme, c'est devenu vraiment, il y a vraiment des start-up qui se sont développées. Donc, je vais vous parler de ça. Voilà, donc start-up et proxénétisme. C'est un extrait d'un article de Francine Sporanda, qui est une des principales rédactrices du site que vous trouvez, qui s'appelle Révolution Féministe. La mutation néolibérale de l'industrie du sexe. Pour survivre à ces crises économiques et nourrir leurs familles, les femmes de ces pays ont eu essentiellement trois options. Être travailleuse domestique, prostituée ou mère porteuse et émigrer éventuellement vers des pays occidentaux pour trouver facilement du travail. Le néolibéralisme, le projet idéologique du tout marché de la Chicago School of Economy, développé par Milton Friedman, Hayek, etc., a précipité les femmes dans la pauvreté dans de nombreux pays. 70% des personnes vivant sous le seuil de la pauvreté dans le monde sont des femmes. On parle de féminisation de la pauvreté. Mais des économistes néolibéraux ont été jusqu'à présenter la prostitution comme une option économique viable pour les femmes pauvres. La cyber-prostitution passe par des start-up proposant des annonces pour adultes. leurs PDG sont des hommes jeunes et branchés. Jim Buckmaster, le PDG de Craigslist, qui a désormais fermé sa section d'annonces pour adultes, mais il y aurait encore des annonces prostitutionnelles dans la rubrique Personals. C'est un informaticien basé à San Francisco, issu de la contre-culture. Il a été présenté comme anticapitaliste, entre guillemets. Il dirige une compagnie qui compte 700 sites d'annonces dans 70 pays, dont 20 sites en Grande-Bretagne. Ces sites reçoivent 65 millions de visiteurs uniques chaque année et la valeur de la compagnie est estimée à 1 milliard de dollars. Le shérif Tom Dart de Cook County, Illinois, l'a qualifié de plus grande source de prostitution dans le monde. Mais seulement 32 personnes sont employées de façon permanente au siège de Craigslist à San Francisco. Jim Buckmaster campe cette figure néolibérale paradoxale, un proxénète d'extrême gauche. Viva Street a commencé par une start-up créée par un Français, Yannick Jean-Camille Ponce, qui à ses débuts s'est installé aux États-Unis. Le premier site qu'il a lancé, Easy Roommate, ciblait les personnes qui cherchaient un colocataire. Il a ensuite lancé un site généraliste. Et ce site Viva Street a bien fermé sa rubrique Erotica, qui publiait essentiellement des annonces prostitutionnelles, mais seulement sur son site français, ce qui a causé une chute importante de la fréquentation du site. Il est passé de 11 millions de visiteurs uniques à 4 millions. Cela met en évidence que ce sont surtout les annonces prostitutionnelles qui attirent la majorité des visiteurs sur ces sites. Voilà. Je vais vous saluer, vous remercier de votre soutien si vous êtes en train de m'écouter et d'apprécier toutes ces informations que l'on entend évidemment, comme vous avez pu comprendre, pratiquement pas dans les médias. Pas assez, bien sûr, la prostitution, ben, je sais pas, on n'en parle jamais ou alors dans le mauvais sens. Voilà, et ben du coup, je vous dis merci et à la semaine prochaine. Voilà, je vais lancer mon générique. Et puis, si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me contacter sur le Facebook Révolution Féministe. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.
Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.
Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, logo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé. Baixo xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas, dentro de todas as casas, mulleres e do mundo illadas.